chapitre 11, à partir du verset 1er. Il a été convenu, même si ce n'est pas écrit, que sans doute ce livre aura été rédigé par Salomon. Salomon, grand roi, très entreprenant, qui finalement a fait de sa vie une quête sans cesse, une recherche. Et il en a découvert pas mal de choses, mais il est arrivé à beaucoup de constats. C'est un livre un tantinet philosophique quand même, quand on voit de quelle démarche l'a poussé à écrire ainsi. Et là, nous arrivons au chapitre 11, à ce qui pourrait nous paraître comme des évidences, mais évidence et incertitude, en fait. Évidence et incertitude. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au sud ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas par quel chemin va le vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. » Vous ne pourrez jamais tout planifier dans votre vie. Merci Vanessa, tu as dit un petit peu ça aussi. Vous ne pourrez pas tout planifier, ce n'est pas possible. Même si vous faites des efforts, même si vous imaginez, souvenez-vous quand vous aviez 15 ans, vous vous êtes dit « je vais faire ça comme étude, je me marierai à 25 ans, j'habiterai dans telle rue, bordée d'arbres et mes enfants iront à la maternelle juste à côté. » Bon, mais ça c'était illusoire. On ne peut rien calculer. D'ailleurs, les années passant, quel âge vous êtes marié? Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce qu'il y avait une rangée d'arbres où ils avaient été mangés par les papillons? Et est-ce que la crèche avait fait faillite? Allez savoir. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais on aime bien planifier, on aime bien imaginer comment les choses vont arriver. Alors, pour planifier, vous avez trois possibilités. Vous avez trois possibilités. Soit vous vous inquiétez de tout, et alors là, ça va être terrible. Soit vous vous inquiétez de rien, mais ça va être horrible. Soit vous remettez tout à Dieu et vous laissez guider vos pas. Soit c'est vous, soit c'est Dieu. Soit c'est vous qui faites ou qui ne faites pas. Donc, on s'inquiète de tout, on s'inquiète de rien. Mais ça sera horrible, terrible, ce sera dramatique. Ça va être une vie faite de surprises, mais je crains les mauvaises surprises. Soit vous remettez tout à Dieu, soit vous lâchez prise. Soit vous lâchez prise et vous laissez Dieu faire. Et ce texte est très intéressant parce qu'on s'aperçoit dans ce texte que le pauvre Salomon, il y a bien des choses qu'il a pu planifier, il y a bien des choses qu'il a pu voir, il y a bien des choses qu'il a pu anticiper, mais il y en a plein d'autres qui lui échappaient complètement. Complètement. D'ailleurs, quand il dira précisément « Dès le matin, sème ta semence, le soir, ne laisse pas reposer ta main », tu ne sais pas ce qui va réussir. Si la semence que tu as jetée à droite, celle que tu as jetée à gauche, si c'est la bonne terre, si c'est à cet endroit, qu'importe, fais-le. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Ça nous amène quand même à réfléchir un instant, parce que on peut ne pas savoir ne pas imaginer comment les choses vont tourner. Ça peut être quand même déstabilisant. Mais même si vous ne savez pas qu'est-ce qui adviendra, on voit les nuages, on se dit il va pleuvoir, peut-être qu'il ne pleuvra pas. Là, d'ailleurs, dans ce même texte, il est bien précisé que celui qui observe le vent, il ne sèmera pas. Il ne va jamais récolter puisqu'il n'a rien semé, il ne va rien récolter. Donc, ça signifie qu'il faut tout faire comme si tout dépendait de vous et puis lâcher prise parce que tout dépend de Dieu. Faites tout ce que vous pouvez, mais à un moment donné, arrêtez-vous. Et dites maintenant, c'est Dieu qui devra faire, parce que vous n'y arriverez pas. Et c'est là où on entre dans une part de véritablement miraculeux, c'est ce qu'on appelle la foi en somme, la foi, faire confiance. à Dieu plus qu'à vous-même, faire confiance à Dieu plus qu'aux autres, faire confiance à Dieu plus que tout. Faites-lui confiance cet après-midi. Si vous lui faites confiance, il y a de fortes chances que votre vie soit améliorée, pour ne pas dire totalement transformée. Si vous lui faites confiance, il y a des réalités qui vont prendre corps dans votre vie. La foi, c'est toujours en relation avec Dieu, mais c'est, pour ainsi dire, en connexion avec des résultats, forcément, il y aura des résultats. Alors, il y a des erreurs à ne pas faire. La première erreur serait de compter sur son propre pouvoir, ses propres capacités, parce que vous ne serez pas le premier à le faire, et ça a toujours été quelque chose qui a été fait maintes et maintes fois. On a souhaité trouver du réconfort, du secours, soit en nous-mêmes, soit chez ceux qui nous ressemblaient. C'est peut-être pour ça que Dieu a dit ceci, « Ne vous confiez pas aux grands de la terre, dans un sens imagé, bien sûr, aux fils de l'homme qui ne peuvent pas sauver. » Et pour quelle raison? Parce que leur souffle s'en va et ils rentrent à leur tour dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. C'est quand même très instructeur, très édifiant, les périodes préélectorales. Très édifiant, parce que vous voyez dans quelle mesure les gens sont prêts à croire, sont prêts à promettre, sont prêts à donner, sont prêts à vous promettre tout un tas de choses. Et puis, les moments post-électoraux, après les 100 jours, tout d'un coup, on tombe sur d'autres réalités, on dit « Oh, on nous avait promis, ça n'arrive pas, ce n'est pas arrivé. » Et dans tous les pays du monde, c'est ça. J'ai entendu ces derniers temps que dans un certain pays d'Amérique du Sud, comme il y allait avoir une grève générale, le président a ordonné immédiatement l'augmentation de 40% du SMIC. Le jour même. Et on a envie de dire, s'il avait autant d'argent, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait avant. Je pense que ça aurait fait du bien à tous ceux qui étaient smicards, non? Ouais. Il promet. Est-ce que ça viendra? Est-ce que ça ne viendra pas? Allez savoir. La Bible vous donne un conseil. Ne vous confiez pas dans le pouvoir, ne comptez pas sur le pouvoir des hommes. C'est très aléatoire, c'est très illusoire. Remarquez, si à chaque fois on l'a fait, c'est parce qu'évidemment on avait en face de nous des gens intelligents. Des gens un peu savants, des gens qui étaient très capables, des gens qui étaient débrouillards, qui étaient pour certains inspirants, pour d'autres peut-être même aspirants. Ils vous ont aspiré à leur cause, ils vous ont entraîné après eux, certainement. Mais le résultat, c'est que bien souvent, ils n'ont fait qu'avec les conjonctures, avec le temps, avec les périodes, et beaucoup s'en défendront en disant « Je n'y suis pas arrivé, mais regardez la tuile qui nous est tombée sur la tête ». Et quand bien même, c'était le toit tout entier, malheureusement, on s'est fié, on s'est confié, on a mis nos espoirs et puis on a été déçus. Si vous faites confiance aux grands de la terre, vous serez déçus parce que leur souffle s'en ira, passera comme le vôtre. Ils vivront peut-être un peu plus vieux que vous, peut-être pas, mais toujours est-il que leurs promesses s'en iront avec leur souffle et que restera-t-il après tout cela? Ce serait dommage de ne se confier que aux hommes et surtout en leur capacité, parce qu'on risque fort d'être déçu. Certains ont compté sur la force. La Bible traduit cela souvent par de la violence, d'ailleurs, quand on cherche à imposer un droit, une opinion, on agit avec violence souvent. Ça va à l'encontre de ce que les autres voudraient. Et les habitants de la terre ont manifesté souvent beaucoup de violence. On a un petit peu le même texte qui revient dans un psaume. Il est dit ceci, « Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir, et là il y a un exemple, dans la rapine. Ne vous fiez pas, ne vous confiez pas, ne mettez pas un vain espoir dans la violence. Comptez sur l'autorité des hommes, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de vouloir, il ne suffit pas de promettre pour faire. Vous savez, tous les habitants dans les déserts, ils veulent la pluie, mais la pluie ne vient pas. Ils la réclament, la pluie, mais elle ne vient pas. Elle devrait, mais elle n'est pas là. Alors on fait quoi? Il ne suffit pas de vouloir. suffit pas de dire avec violence, on va essayer d'obtenir ce que l'on souhaite pour que ça vienne. Faire violence, c'est opprimer. Faire violence, c'est être malveillant. Faire violence, c'est bien souvent du mensonge d'ailleurs, parce que ce qu'on n'est pas capable d'expliquer est capable d'expliquer avec des mots raisonnés. Eh bien, on veut l'imposer, mais c'est un leurre, c'est une séduction quelquefois. La violence, en tous les cas, c'est un mensonge, c'est une tromperie. Jamais vous dire que le pouvoir des hommes est destructeur autant que le pouvoir de Dieu est bâtisseur. Les hommes détruisent, Dieu construit. Si vous faites confiance aux hommes, vous allez perdre vos illusions et peut-être d'autres choses avec. Si vous faites confiance à Dieu, vous bâtirez, réellement vous bâtirez. Ce sera évidemment beaucoup plus solide. On pourrait se dire que la force, si on se donnait la peine, on pourrait réussir à faire quelque chose, mais la Bible compare les forces. D'ailleurs, je pense que soi-même, on les compare. Souvent, dans les cours de récréation, dans les cours d'école, les forces se jaugent et se comparent. Vous avez le petit qui est malmené par le grand costaud, jusqu'au jour où il y en a un plus grand costaud qui va faire taire celui qui se croyait le plus fort. Et ainsi, c'est un rapport de force. Se jauge, on se compare comme cela. Eh bien, ceux qui se confiaient en l'homme et qui mettaient leur force dans la violence devaient apprendre une chose, c'est ce qu'il est dit dans ce même psaume 62. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Elle n'est pas aux hommes, elle est à Dieu. Si vous voulez vous en sortir, faites confiance au Seigneur, il saura déployer sa force de manière très efficace. Et puis il y a un troisième danger, c'est de compter sur ses richesses. On en a tous plus ou moins. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui en ont moins qu'à une certaine époque. Et je remarque là aussi certaines attitudes, c'est dommage, ça aurait pu se passer autrement. Dans l'évangile de Marc, on raconte l'histoire d'un homme qui avait réussi dans la vie, il avait vraiment bien réussi. Et pour lui, les choses étaient ainsi faites. Puisqu'il avait réussi, il suffisait maintenant de capitaliser, en somme, de pouvoir capitaliser ses richesses et tout ce qu'il possédait. Mais ça va être pas à son corps défendant, mais ça va être à son corps opprimant. Parce qu'il s'est dit qu'avec l'argent, il avait assuré son avenir. Peut-être sa retraite par capitalisation, allez savoir. Mais c'est difficile de se confier en ces richesses, parce qu'aujourd'hui vous les avez, demain vous ne les avez plus. Vous savez, les richesses, c'est un peu comme les bitcoins, cette monnaie virtuelle qui a été inventée. Certains ont établi ce système monétaire par informatique, par Internet. Et donc il y a des gens qui ont récupéré des fortunes comme ça, on parle de millions d'euros. Sauf que la monnaie n'existe pas, ce n'est pas du papier, ce n'est pas des pièces, c'est juste des échanges sur Internet, c'est pour passer à côté des banques. Comme les banques prennent beaucoup de sous, comme les banques profitent beaucoup de marge, etc. On a créé ça, ça passe par personne, c'est géré comme cela et on gagne des fortunes. Et j'ai entendu il y a quelque temps de cela, je ne sais plus de quel pays, il était australien ou canadien, je ne sais plus, il y en a un qui les a perdus. Il les a perdus, ces fameuses pièces virtuelles. On estime qu'il a perdu 10 millions d'euros. Je pense que ça a dû l'empêcher de dormir quelque temps. 10 millions d'euros à la poubelle, disparu. Mais vous savez, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en 2008, vous pouvez avoir du vrai argent, des pièces et des billets. Forcément, si vous en avez beaucoup, à un moment donné, vous les avez mis à la banque. Ben, tout a disparu. Voilà, tout a disparu. Il y a des banques qui ont fait faillite. Aux États-Unis, il y en a qui ont tout perdu. Ils se sont suicidés parce qu'ils avaient tout perdu. C'est dramatique. Se confier dans des richesses, ça dure qu'un temps et c'est jamais suffisant. Cet homme, dans cet évangile, dira « Tu as de l'argent en réserve pour plusieurs années. » Et Dieu va lui dire le même jour « Ah, j'ai oublié de te dire, tu vas mourir d'une crise cardiaque cette nuit. Tu t'en vas. » Et tout cet argent, à qui ça va servir? Donc, se confier dans des richesses, c'est aussi très illusoire, et puis ça peut être dangereux, puisque certains ont été aveuglés par leurs richesses. Dans une lettre, un homme de la Bible, Jacques, parlera des riches, des richesses et des riches. Et il dira ceci à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Dieu n'est pas contre l'argent, c'est lui qui a créé la richesse. Mais Dieu est contre l'usage qu'on en ferait, évidemment. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il est écrit également dans la Bible que l'argent, l'amour de l'argent est une racine. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des racines de tous les maux, de toutes les douleurs, de toutes les peines, l'amour de l'argent. Ça amène à la détresse, ça amène au malheur. Aujourd'hui, on construit de plus en plus grand. On a créé un dernier paquebot, ils sont combien dessus, 6 000 ou 10 000, je ne sais plus combien ils sont dessus. Pour partir en croisière, vous avez 15 ponts, vous avez 8 piscines, 12 restaurants. Enfin. Et il y a la traversée, c'est 10 000 dollars ou 15 000 dollars. Bon, ils vont profiter d'une belle croisière, espérons qu'il n'y ait pas de tempête. Non, les piscines vont se vider, je pense. Ça va tourner mal. Avec l'argent, vous pouvez monter sur le meilleur paquebot du monde, mais vous ne calmerez pas la tempête si la tempête souffle. Donc, voyez, très aléatoire, les richesses. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez trois possibilités de rater finalement votre vie. C'est soit de vous confier en vous-même ou en vos semblables, soit de vous confier en votre propre force ou celle des autres et de faire violence, parce que dans la vie, il faut faire violence et se faire violence, soit de vous confier dans les richesses, quelles qu'elles soient. Mais je puis vous dire que vous vous inquiéterez de tout et de rien, et ce sera terrible. Je préférerais que vous vous confiez en Dieu cet après-midi. Je préférerais vraiment que vous lui mettiez, que vous mettiez en lui toute votre confiance. Je préférerais vraiment que vous lui fassiez réellement confiance cet après-midi. Parce qu'il y a des conséquences à se confier en Dieu. Et j'en ai noté quelques-unes, je ne vais pas vous lire les versets, mais ils disent tous la même chose, il n'y a que l'adjectif qui change à la fin. Plusieurs versets dans trois proverbes et dans un psaume. « Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. » Amen. Heureux, rassasié, protégé, environné de grâce. J'ai l'impression que ça va faire grandir votre capital confiance. J'ai l'impression que ça va vous aider. J'ai l'impression que si vous vivez dans cette dimension-là, les choses devraient quand même aller mieux. Vous n'avez pas à vous inquiéter, parce que de toute façon, avec des inquiétudes, on n'a jamais rallongé sa vie. Hein. Statistiquement, on l'a raccourci. Ulcères, etc. On l'a raccourci, on ne la rallonge pas. Les inquiétudes ne rajoutent rien, bien au contraire. D'ailleurs, dans un autre psaume, il est bien dit ceci, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Et il y a écrit « tous ceux qui se confient en lui. » Vous n'avez pas à avoir honte de faire confiance en Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moqué, cette idée-là. « Oh, tu te confies en Dieu, ça ne sert à rien, regarde, où est-ce que tu t'en vas, dans quel état tu vis, etc. » Non, non, vous n'avez pas à avoir honte, parce qu'il est dit ceci, « Ils se confiaient en Dieu et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confus. » Alors, j'en reviens à ce texte de l'Ecclésiaste. Il y a des évidences. Mais il y a des parts miraculeuses quand même. Avec Dieu, il y a toujours une part miraculeuse. Parce que le premier verset qu'on a lu, techniquement, il est bizarre. Il n'est pas logique. Jette ton pain sur les eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Il me semble qu'à une époque, je ne suis pas amateur, hein, mais que j'avais remarqué que certains, quand ils allaient pêcher, ils avaient pour habitude de jeter d'abord du pain, histoire de dire que les poissons viennent, puis après ils lançaient la canne et ils pêchaient. Lequel s'est dit, je vais jeter du pain et je reviens après-demain, puis je le récupère. Il y a un truc qui n'est pas logique. C'est la part miraculeuse de Dieu. Dieu nous demande de faire des choses qui, à nos yeux, sont insensées, mais sont remplies de bon sens. Parce qu'il y en a d'autres choses qui, finalement, pourraient nous étonner ou d'autres pourraient nous blaser. Il est bien précisé ceci, quand les nuages sont pleins de pluie, il pleut. Si un arbre tombe d'un côté, ben il restera là, à moins qu'un bûcheron vienne l'enlever, mais sinon il restera là, il ne bougera pas. Par contre, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Le chemin du vent, comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. De la même manière, tu ne sais pas non plus comment Dieu va faire les choses. Tu ne sais pas non plus pourquoi il les ferait. Tu ne sais pas non plus de quelle manière il va y avoir des conséquences dans ta vie. Mais la vérité, c'est qu'il y en aura. La vérité, c'est qu'il y aura la bénédiction de Dieu. Alors cet après-midi, et je conclue, faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Lâchez prise. Remettez-lui tout, absolument tout. Arrêtez les calculs. Arrêtez d'imaginer, voilà, ça s'est passé comme ceci, ça va se terminer comme cela. Il y a des évidences, mais il y a des incertitudes dans la vie. Et pour les évidences, ben, vous avez suffisamment de recul pour réfléchir à cela. Mais pour les incertitudes, ne vivez pas avec cela. Remettez tout entre les mains de Dieu. Ça commence par votre avenir, ça commence par votre vie, ça commence par votre âme, ça commence par votre cœur. Faites-lui confiance et il vous bénira. Je peux vous reciter. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il est rassasié, il est protégé, il est environné de grâce. La foi nous demande de regarder à ce que Jésus a fait à la croix. Et quand Jésus meurt à la croix, il dit « Tout est accompli ». Et après qu'on l'ait mis au tombeau pendant plusieurs jours, trois, il va ressusciter d'entre les morts. On viendra examiner le sépulcre. La pierre a été roulée miraculeusement. Il y a eu un tremblement de terre. Il s'est passé des choses. Jésus est vivant. Et cette espérance, dira l'apôtre Paul dans une lettre, l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais l'apôtre Paul en parlait par ailleurs dans plusieurs de ses lettres. L'auteur de l'épître aux Hébreux a signifié que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Votre confiance, si elle repose en Dieu, c'est comme si vous avez jeté l'ancre par-dessus la barque. Maintenant, ça ne bougera plus, malgré la tempête, malgré les difficultés. Vous êtes accroché sur le bon fondement. Vous avez jeté au bon endroit. Vous avez mis en Dieu votre confiance et il ne vous décevra pas. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais que, avec moi, vous puissiez vous incliner quelques instants. Et j'aimerais que l'on puisse demander à Dieu sa grâce et demander à Dieu son secours. Regardez, regardez ce que vous avez réussi. Regardez ce que vous avez raté. Regardez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché. Regardez ce qui a été une victoire et un échec. Regardez. Et puis faites le bon choix. Cet après-midi, remettez tout entre les mains de Dieu. Il va agir. Seigneur, nous venons devant toi. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, nous te remercions pour ta bienveillance, nous te remercions parce que tu nous as appris à te faire confiance, nous te remercions parce qu'avec toi nous avons tout trouvé, c'est bon de lâcher prise, c'est bon de te laisser faire, c'est bon de te faire confiance même si certaines vérités ne nous apparaissent pas bien claires pour l'instant, elles vont s'éclairer parce que tu vas faire en sorte qu'elles s'éclairent, tu vas éclairer, illuminer nos cœurs et nos vies. Je prie que tu étends ta main, je prie que tu agisses maintenant, et que tu te glorifies dans la vie de tous ceux qui te cherchent. Merci de te manifester. Si quelqu'un est en doute, et si quelqu'un est en recherche, si quelqu'un n'est pas satisfait encore, apporte-lui le réconfort. Délivre-le au nom de Jésus. Ne laisse pas le diable se saisir de lui et de l'agiter d'un côté et d'un autre. Ne laisse pas Satan prendre la main sur ses projets, sur son avenir, mais occupe-toi de sa vie et bénis-le, bénis-la maintenant. Fais-lui du bien, je t'en prie. De toi vient le secours, le vrai secours. De toi vient la délivrance, parce que tu as toute autorité. Merci d'agir et de te glorifier maintenant. Amen.